Bonjour à tous, ça me fait plaisir de me retrouver en face de vous, stressé comme d'habitude, mais c'est avec plaisir que je vois chacun de vos visages. Notre mois sur la famille touche à sa fin et on a vraiment vécu des très bonnes choses tous ensemble. On peut faire le récapitulatif, on a eu le week-end d'église, qu'est-ce qu'on a eu l'autre? On a eu la soirée homme, la soirée des vrais bonhommes, c'était beau de voir... des hommes de toute génération s'amuser, échanger ensemble. On a eu l'après-midi avec Martine Genex aussi, sur l'éducation des enfants, je crois qu'il a été bien apprécié. Même si je la connais bien, elle m'apprend toujours des choses. Et vous avez eu la soirée femme. Je n'étais pas là incognito, et on m'en a dit que du bien. Donc, on a eu aussi les messages de Manu et Richard. Et si vous avez raté tout ça, il vous reste encore le message de ce matin où on aimerait parler ce matin des langages de l'amour. Un terme un peu étrange, ça veut tout simplement dire les différentes façons qu'on a d'exprimer et de recevoir de l'amour. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'amour, c'est au centre de la vie chrétienne. J'espère que je ne vous apprends rien. Et je vais lire trois passages parmi les plus connus de la Bible. Dans Marc 12, 28-31, un maître de la loi vient voir Jésus. Il s'approcha donc de lui et lui demanda « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël. » Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Jean, le disciple qui a côtoyé Jésus et qui a été touché par son amour, nous a livré un des passages les plus radicaux de la Bible, comme si elle n'était pas déjà assez radicale. 1 Jean 4, 7 et 8. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Je répète la dernière phrase. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'apôtre Paul, pour finir avec le troisième passage, ne dit pas autre chose avec son « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une cymbale bruyante. » En 1 Corinthiens 13. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien d'autre qu'une personne creuse. » Si on veut paraphraser. Nous ne croyons pas que Dieu fait parfois preuve d'amour. Nous ne croyons pas que Dieu fait parfois preuve d'amour. Nous croyons que Dieu est amour. Et ça change tout. Cela fait partie intégrante de sa personne. Il ne peut pas être autre chose qu'amour. Ce que l'on appelle sa sainteté, les raisons qui le mettent en colère, son sens de la justice, viennent de son amour parfait. Le péché, c'est le manque d'amour, c'est le manque de Dieu. Et tu l'as dit dans ta prière tout à l'heure, si au début de notre vie chrétienne, on se laisse souvent toucher par cet amour et le commandement d'aimer, des fois avec le temps, nous avons tendance à oublier que c'est central chez Dieu et pour nous. Et pourquoi ? Parce que le mot amour, il a été bien déformé. Parce que ça ne fait pas sérieux. Parce qu'on a peur du ridicule, de passer pour un faible, de se faire manger. Même moi, là, un homme qui parle d'amour, là, en haut de la chaire, j'ai peur de passer pour un Francis Cabrel, un Patrick Bruel, je ne sais pas quoi. Vous vous moquiez un peu de moi, quoi. On ne pourrait pas parler du match de Paris hier contre Bordeaux ou quelque chose d'un peu plus viril, non? mais c'est surtout que nous sommes surtout pécheurs. Et nous n'avons aucun problème pour voir le mal autour de nous, ou pour imaginer des façons de faire le mal. Mais nous avons du mal à voir quand quelqu'un nous exprime son amour, ou à savoir comment l'exprimer à quelqu'un. L'amour se cache à nos yeux. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, souvent. Moi, je côtoie pour mon travail beaucoup de conseillers conjugaux. Ils demandent souvent, en début de session, aux couples qui viennent nous voir, de faire deux listes parallèles. Une liste de reproches qu'on fait à son conjoint, une liste de choses qu'on apprécie. Et je vous assure que la liste de reproches, elle se remplit à une vitesse folle. Et après, quand c'est le moment de remplir les choses qu'on apprécie, on voit les gens, le stylo dans la bouche, qui réfléchissent, qui se creusent, pour essayer d'avoir une liste équilibrée. Et vous ? Et moi ? Est-ce qu'on prend au sérieux qui est vraiment Dieu ? Dieu est amour. Est-ce que vous êtes un spécialiste de l'amour du prochain ? Heureusement pour nous, il existe des héros du christianisme qui ont étudié la vie de Jésus sous ce regard et examiné notre condition humaine. Il en ressort grosso modo 5 façons d'exprimer l'amour ou de le recevoir et que l'on n'arrive pas forcément à voir. Selon votre passé, votre culture, votre éducation, vous serez plus sensible à l'une ou l'autre des manières de donner de l'amour ou de le recevoir. Je vous propose de les passer en revue et je vous propose d'essayer de vous reconnaître ou de reconnaître les gens qui vous entourent. On va commencer avec le premier. On peut afficher la première photo. C'est bien. Ah, voilà. Vous voyez un peu mieux, là ? Il n'y a pas d'ordre d'importance dans toutes ces façons d'exprimer. Le premier, c'est les ou le service. Là, vous voyez Mathieu qui préparait des croque-monsieur pour toute une colonie de vacances, qui était content d'aider. Il a bien grandi depuis, mais l'année dernière, à la même colonie, il m'a dit « Papa, là, on est là pour servir. » Ça m'a fait plaisir, j'ai dit « T'as tout compris. » On est là pour servir ses ados. On n'est pas là pour les exploiter, mais pour les servir. Marc 10, toujours 42-43. Alors Jésus les appelait tous, donc ses disciples, et leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maître, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur, et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. » Ça pourrait être le langage facile d'un patron qui veut que les gens le servent. Est-ce que c'est « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, Jésus » Non. Jésus n'a eu de cesse de montrer l'exemple. Et il l'a montré de manière très forte, en lavant les pieds de ses disciples. Dans la famille, on voit souvent ce genre d'incompréhension. « Chérie, je t'ai ramené ces fleurs hyper rares. J'ai dû faire des pieds et des mains pour te les ramener. » Oui, mais moi, chérie, je préférais que tu sortes la poubelle de temps en temps. Si vous vous prenez ce genre de remarques à la maison, c'est le signe d'une personne qui est plus sensible au service rendu qu'au cadeau, par exemple. Dans l'église, par exemple, est-ce que vous savez reconnaître que la personne qui fait presque toute seule la vaisselle d'un repas fraternel, c'est une manière d'exprimer son amour pour cette communauté ? Est-ce que nous savons le remercier ? C'est une image du Christ, comme celui qui tond le gazon pour nous, qui fait son tour de ménage consciencieusement, contrairement à moi. L'autre façon d'exprimer ou de recevoir de l'amour, ce sont les moments de qualité. Voilà, ce livre de chansons, il a déjà fait 3 garçons différents, il tient le coup. C'est le temps passé, en particulier avec une personne où on lui accorde toute notre attention. Vous vous souvenez de Zachée ? Un aide de petite taille méprisé, arnaqueur de par son travail de collecteur d'impôts, qui habitait la ville de Jéricho. Et Jésus vient à passer à Jéricho, lui il n'arrive pas à le voir, monte sur un arbre pour essayer de l'apercevoir, et au milieu de cette foule, Jésus vient vers lui et lui dit « Zachée, aujourd'hui c'est chez toi que je veux manger. » Okay. On ne nous dit pas ensuite ce qui a été dit pendant le repas ou ce qui a été fait, peu importe. Mais on sait ensuite que la vie de Zachée a été changée. Pourquoi ? Parce que Jésus, au milieu de la foule, lui qui était méprisé, il est venu le voir lui et a décidé de passer du temps avec lui. Est-ce que par-dessus tout, vous aimez passer du temps à discuter avec un ami ? Vous êtes probablement sensible à ce genre de langage de l'amour. Dans la famille, il faut savoir entendre quand un enfant vous demande de passer du temps pour jouer avec lui. Quand il est temps de trouver qui pourrait garder les enfants parce que votre mari a besoin d'un resto juste avec vous. J'ai inversé, hein, c'est plus souvent, c'est plus souvent le cas contraire. Et pendant que je consacre du temps, je donne toute mon attention. Et je me parle à moi, là. Je me demande combien d'enfants, plus tard, diront mon papa, oui, il venait souvent avec nous faire un truc, mais je crois qu'il préférait les applis sur son téléphone. À part peut-être, avec mes enfants, c'est un domaine où moi, je suis très nul. Et je suis heureux que dans l'église, d'autres soient plus hospitaliers que moi, plus investis dans leur groupe de maison que moi, savent prendre du temps ou un à un. Il faut aussi savoir reconnaître cet amour en action. Le troisième point, la troisième façon d'exprimer ou recevoir de l'amour, c'est les compliments. On pourrait aussi dire les paroles d'encouragement. Et comment ne pas penser là à la relation, et encore une fois Manu, tu m'as mâché tout le travail, entre l'apôtre Pierre et Jésus. Pierre, tu es un roc sur lequel je vais bâtir mon église. Pierre qui l'avait renié ensuite. Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Alors conduis mon troupeau, hein, ou paie mes brebis. Pierre avait besoin d'entendre ces paroles valorisantes pour se construire. Et ça a marqué sa vie. Dans les stages de management aujourd'hui, on réapprend à des gens soi-disant très intelligents, qui ont fait des longues études, à savoir simplement dire merci quand un employé a fait du bon travail. Et certains découvrent avec étonnement que l'encouragement marche mieux à long terme que la peur. Les mots ont un grand pouvoir de blesser ou de guérir. Proverbe 12-18. Une personne qui dit n'importe quoi blesse comme une épée, mais celle qui parle avec sagesse apporte la guérison. Il y a en effet des formules magiques qui peuvent transformer une famille ou une église. C'est bien ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu as été sage, je l'ai remarqué. Si ce genre de remarque vous remplit de joie pour une journée, vous êtes probablement sensible à ce langage de l'amour. Moi, dans mon travail, je m'occupe de recevoir des manuscrits et de dire, travailler avec les auteurs pour leur dire ce qui ne va pas dedans, ce qu'il faudrait changer. Et j'ai appris dans la douleur, parce que je me suis fâché avec quelques auteurs, à savoir dire d'abord, sincèrement, avant de commencer à critiquer le manuscrit, ce que j'ai apprécié dedans. Et je commence toujours par ça maintenant. Je ne me fais plus avoir. J'invente pas n'importe quoi, je vais vraiment chercher ce qui m'a vraiment plu, ce qui m'a touché, et je commence par ça. Et la porte, elle est plus facile, elle est ouverte après au changement. Et c'est la même chose dans l'église, dans la famille. On a toujours besoin de faire des reproches, de changer les gens, d'avancer. Mais si on n'a pas pris l'habitude de dire aux gens ce qu'on apprécie chez eux d'abord, on n'arrivera pas à les changer à la première remarque qu'on va leur faire. La quatrième façon de recevoir et d'exprimer l'amour, c'est le toucher. Les passages des évangiles ne manquent pas présentant Jésus touchant ou se laissant toucher par des gens considérés comme pécheurs ou impurs. Quand il pose ses mains sur l'aveugle, quand la femme impure l'approche, Jean, l'apôtre, relate un geste de tendresse envers son disciple lors du dernier repas. On voit Jésus qui accueille aussi les jeunes enfants. Et on fait souvent l'erreur de réduire le toucher à la sexualité. Les plupart des personnes ont besoin régulièrement de contact physique pour se sentir bien. Entre deux hommes, ce pourrait être un coup de poing affectueux sur l'épaule. Entre un père et son fils, une bagarre, des chatouilles. Un enfant en a besoin pour se construire. Entre un homme et sa femme, le besoin pour des personnes de simplement se tenir la main, se prendre dans les bras, un massage de tête. Ce sont des besoins très naturels pour beaucoup. Et j'oserais dire, pour une personne seule, ce n'est pas une honte, des fois, de s'offrir une séance chez l'esthéticienne ou une séance de massage. Il faut savoir reconnaître ces besoins-là. Pour les femmes mariées aussi, hein, on manque de petite attention comme ça. Dans l'Église, là vous m'attendez au tournant, qu'est-ce qu'il peut bien dire sur le toucher dans l'Église? Comme l'a dit Manu, ma référence, ce matin, Jésus réunit des personnes un peu différentes, d'horizons différents, et on ne refuse la poignée de main à personne, ni la bise, comme je ne sais plus quel apôtre nous invite à nous faire le baiser fraternel à chaque fois qu'on se rencontre. Le dernier point, la façon de recevoir ou d'exprimer l'amour, ce sont les cadeaux. Est-ce que vous pouvez penser tout de suite à un objet que vous avez reçu en cadeau et que vous gardez précieusement sur votre bureau ou sur vous? Si oui, vous êtes probablement sensible à ce genre d'attention. Pas besoin d'être riche pour faire plaisir à une personne. Certaines personnes auront besoin de petits cadeaux réguliers seulement pour se sentir aimées. Moi, j'ai un de mes meilleurs copains, il a gardé longtemps sur son bureau un morceau de bois que je lui avais donné, parce que ça, c'était lié à une anecdote qui nous avait fait rire, et il l'a gardé pendant toutes ses études sur son bureau, comme ça. Et ça m'a pas coûté bien cher. Quand nous allons en vacances chez la mère de Julie, on n'aura pas jamais les mains vides. Là, je porte fièrement autour du bras une montre que m'a donnée mon beau-père. Juste parce que j'ai eu le malheur de lui dire que je la trouvais jolie. Il l'a enlevée tout de suite et il m'a dit « Elle est pour toi ». On était très gênés au début avec Julie parce que c'est vraiment pas du tout notre culture à nous. On avait l'impression que les enfants allaient finir pourri gâtés. Et on les a bien mis en garde de ne pas demander de choses, de rien mentionner de ce qu'ils aimaient. Mais on a fini par s'y faire, de comprendre que c'est leur façon de nous exprimer leur amour. Ils le diront jamais avec des mots, mais ils le diront avec des cadeaux. Le don, c'est une manière d'exprimer sa reconnaissance. Dans l'Église, l'offrande, c'est une des expressions de ce langage. L'offrande, elle sert à Dieu, mais elle sert aussi à la communauté, à travers paroles et actes, par exemple. Je n'ai pas commencé par Jésus comme pour les autres langages, parce que je voulais finir par lui et par le plus beau des cadeaux. Jean 15, 13, alors que c'est son dernier repas avec ses disciples, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis, a-t-il dit. J'aurais pu citer ceci qui se trouve aussi au-dessus de ma tête. Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses amis, pour ses brebis. » Et comme pour le service, il l'a prouvé en portant nos fautes à la croix. Alors à sa gloire, en son honneur,
Essayons de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ouvrons nos yeux sur les différentes façons qu'ont les gens d'exprimer leur amour dans notre Église, dans notre famille, et sachons le reconnaître. Apprenons à parler différents langages de l'amour, ceux que Jésus nous a enseignés. Amen. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, hein, comme on dit. Si vous souhaitez approfondir votre réflexion là-dessus, moi, je vous conseille ce livre-là qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Plus haut, c'est comme à la télé, il faut savoir l'incliner comme ça. Hein, « Les langages de l'amour qui reprend, surtout pour le couple et la famille, ces éléments-là. Et il est simplement à 5 € sur le comptoir, mes yeux. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche.